Chapitre 33. Un dernier regard sur Greenwater Broad. Mon esprit se remonta en traversant les rues claires et désertes et en aspirant l'air frais du matin. Je me dirigeai à l'aide de la grande cité et je m'arrêtai au premier bureau de diligence que je rencontrai pour y arrêter ma place dans la première voiture pour Ipswich. De là, je voyageai avec des chevaux de poste jusqu'à la ville la plus proche de Greenwater Broad. Une marche de quelques milles, à la fraîcheur du soir, m'amena, par des sentiers bien connus, jusqu'à notre ancienne maison. Au dernier rayon du soleil couchant, j'aperçus la rangée familière des fenêtres de la façade et je remarquai que les contrevents étaient tous fermés. Pas une créature vivante n'était visible nulle part. Pas un chien n'aboya, même lorsque je tirai la grande sonnette de la porte. Le lieu était désert, la maison fermée. Après une longue attente, j'entendis des pas lourds dans le vestibule. Un vieillard ouvrit la porte. Si changé qu'il fût, je le reconnus pour un de nos anciens tenanciers. À son étonnement, je l'appelai par son nom. De son côté, il essaya de me reconnaître, mais évidemment, en vain. J'étais sans doute le plus tristement changé des deux, et je fus obligé de me nommer moi-même. Le visage ridé du pauvre diable s'éclaira lentement et timidement, comme s'il était à moitié incapable et à moitié effrayé de s'accorder le luxe d'un sourire. Dans son trouble, il me souhaita la bienvenue chez moi, comme si la maison m'appartenait encore. M'emmenant dans l'arrière-petite chambre qu'il habitait, le vieillard me donna tout ce qu'il avait à offrir, un souper composé de lard et d'œufs et un verre de bière de ménage. Il eut évidemment peine à me comprendre lorsque je l'informai que le seul but de ma visite était de revoir encore une fois les alentours familiers de mon ancienne demeure. Mais il mit volontiers ses services à ma disposition et il s'engagea à faire de son mieux, si je le désirais, pour me préparer un lit pour la nuit. La maison avait été fermée et les domestiques avaient été renvoyés depuis plus d'un an. La passion des courses de chevaux, tardivement développée chez lui, avait ruiné le riche négociant retiré qui était devenu notre locataire à l'époque de nos malheurs domestiques. Il était parti pour l'étranger avec sa femme pour y vivre avec un petit revenu sauvé du naufrage de sa fortune et il avait laissé la maison et ses dépendances dans un tel état de délabrement qu'on n'avait pu trouver un autre locataire pour s'en charger. Mon vieil ami, alors hors d'état de travailler, avait été commis à la garde de la propriété. Quant au cottage de Dermody, il était vide comme la maison. J'étais complètement libre de le visiter si je le désirais. La clé de la porte se trouvait là, dans le trousseau des autres clés, et le vieillard, avec son vieux chapeau sur la tête, était prêt à venir avec moi partout où il me plairait d'aller. Je refusais de le déranger pour m'accompagner ou pour me préparer un lit dans la maison solitaire. La nuit était belle, la lune se levait, j'avais soupé et j'étais reposé. Après avoir vu ce que je désirais voir, je pourrais facilement retourner à la ville du marché et y coucher à l'auberge. Prenant la clé dans ma main, je m'engageai seul dans le chemin à travers les arbres qui conduisait au cottage de Dermody. Je suivis de nouveau les sentiers boisés le long desquels j'avais jadis erré si joyeusement avec ma petite Marie. À chaque pas, je retrouvais quelque chose qui me la rappelait. Là, c'était le banc rustique sur lequel nous nous étions assis à l'ombre du vieux cèdre et où nous nous étions jurés de demeurer fidèles l'un à l'autre jusqu'à la fin de notre vie. Là, la petite source limpide où nous buvions lorsque nous étions fatigués et altérés pendant les jours brûlants de l'été, coulait encore vers le lac en murmurant aussi gaiement que jamais. En écoutant l'aimable murmure de l'eau, je m'attendais presque à revoir Marie, dans sa simple robe blanche, avec son chapeau de paille, chantant à l'unisson de la mélodie du ruisseau et rafraîchissant son bouquet de fleurs sauvages en le trempant dans l'eau froide. Quelques pas plus loin, j'atteignis une éclaircie dans le bois et je m'arrêtai sur un petit promontoire de terrain en pente qui commandait le plus joli coup d'œil du lac de Greenwater Broad. on avait bâti sur la rive une plateforme en bois à l'usage des bons nageurs qui ne craignent pas un plongeon en pleine eau. Je m'arrêtai sur la plateforme et je regardai autour de moi. Les arbres qui bordaient la rive de chaque côté murmuraient leur douce musique champêtre dans l'air de la nuit. La clarté de la lune tremblait doucement sur l'oridée. Plus loin, à ma droite, je pouvais apercevoir le vieil hangar qui abritait jadis mon bateau, à l'époque où Marie venait naviguer avec moi et travaillait au pavillon vert. À ma gauche se trouvait la palissade de bois qui suivait les courbes de l'anse sinueuse et derrière elle s'élevaient les arches brunes du leurre au canard sauvage, tombant en ruine faute d'usage. Guidé par la brillante clarté de la lune, je pus distinguer l'endroit même où nous étions venus, Marie et moi, pour assister à la prise des canards. À travers l'ouverture de la palissade, devant laquelle le terrier s'était montré au signal de Dermodée, un ras d'eau passa, comme une petite ombre noire sur le terrain éclairé, et se perdit dans les eaux du lac. Partout d'où je portais les yeux, le retent écoulé me regarda d'un air moqueur, et les voix du passé m'arrivèrent avec leur refrain accusateur. « Vois ce qu'était jadis ta vie. Ta vie actuelle vaut-elle d'être conservée ?» Je ramassai une pierre, je la jetai dans le lac et j'épiai les ronds qu'elle formait à la place où elle était tombée. Je me demandai si un nageur consommé, comme je l'étais, avait jamais essayé de se suicider en se noyant et s'il avait été assez résolu à mourir pour résister à la tentation d'employer son adresse pour s'empêcher de couler au fond de l'eau. Quelque chose dans le lac lui-même, ou de relatif à la pensée qu'il avait fait naître dans mon esprit, me révolta. Je tournai subitement le dos à son charmant aspect, et je pris le sentier qui conduisait à travers le bois au cottage du régisseur. J'ouvris la porte avec ma clé, et j'entrai dans la salle si présente à ma mémoire. Puis j'enlevai les barres des volets des fenêtres pour laisser pénétrer la clarté de la lune. Je regardai autour de moi le cœur gros. L'ancien ameublement, renouvelé peut-être en un ou deux endroits, revendiquait silencieusement ses droits à mon souvenir dans chaque partie de la pièce. La douce clarté de la lune pénétrait obliquement dans le coin où nous avions l'habitude, Marie et moi, de nous abriter, pendant que Dame Dermodée lisait ses livres mystiques à la fenêtre. Dans le coin opposé, je découvris, caché dans l'obscurité, le grand fauteuil de chêne sculpté dans lequel était assise la sibylle du cottage, le jour mémorable où elle nous avait prévenu de notre séparation prochaine et donné sa bénédiction pour la dernière fois. Jetant ensuite les yeux sur les murs de la chambre, je reconnus de vieux amis partout où mes yeux se reposèrent. Les estampes vivement coloriées, les tableaux en tapisserie encadrée que nous considérions comme de merveilleux objets d'art, le vieux miroir circulaire devant lequel j'avais l'habitude de soulever Marie lorsqu'elle désirait voir son visage dans la glace. Partout où elle pénétrait, la clarté de la lune me montrait quelque objet familier qui me rappelait mes plus heureux jours. Et là encore, le temps écoulé me regarda d'un air moqueur, et les voix du passé m'arrivèrent avec leur refrain accusateur. « Vois ce qu'était jadis ta vie. Ta vie actuelle vaut-elle d'être conservée ?» Je m'assis près de la fenêtre, là où je pouvais apercevoir à travers les arbres le faible éclat des eaux du lac. Je me disais, mon voyage terrestre m'a conduit jusqu'ici, pourquoi ne pas l'y terminer ? Qui me regretterait si l'on annonçait demain mon suicide ? De tous les hommes vivants, j'étais peut-être celui qui possédait le moins d'amis, qui eut le moins de devoirs à remplir envers les autres, et le moins de raisons pour hésiter à quitter un monde qui n'offrait ni une place à mon ambition, ni une créature à mon amour. En outre, où était la nécessité de divulguer que ma mort était volontaire ? Il était facile de la faire passer pour un accident. Par cette belle nuit d'été, et après une longue journée de voyage, ne pouvais-je pas naturellement prendre un bain dans l'eau froide avant de me coucher ? Quelque expert que je fusse dans l'art de nager, ne pouvais-je pas néanmoins être malheureusement pris d'une crampe ? Sur les bords isolés de Greenwater Broad, les cris d'un homme se noyant n'attireraient aucun secours pendant la nuit et l'accident fatal s'expliquerait de lui-même. Je n'avais littéralement devant moi qu'une difficulté, celle qui m'était déjà venue à l'esprit. Pourrais-je maîtriser suffisamment l'instinct animal de la conservation personnelle pour me laisser délibérément couler au fond de l'eau au premier plongeon ? L'atmosphère de la chambre était lourde et épaisse. Je sortis et je me promenai de long en large, tantôt à l'ombre, tantôt à la clarté de la lune, sous les arbres, devant la porte du cottage. Aucune des objections morales contre le suicide n'eut alors la moindre influence sur moi. Moi qui avais jadis trouvé impossible d'excuser et même de comprendre le désespoir qui avait poussé Madame Van Brandt à tenter de se détruire, j'envisageais maintenant avec calme l'acte même qui m'avait révolté lorsque je l'avais vu commettre par une autre personne. Ah, nous pouvons bien hésiter à condamner les faiblesses de nos semblables par cette raison sans réplique que nous ne pouvons jamais savoir dans quel court délai de semblables tentations ne viendront pas nous pousser à nous rendre coupables des mêmes fautes. En me reportant aux incidents de cette nuit, je ne puis me rappeler qu'une considération qui ait arrêté mes pas sur le fatal sentier qui conduisait au lac. Je doutais encore qu'il fût possible à un nageur tel que moi de se noyer volontairement. Voilà tout ce qui troublait mon esprit. Pour le reste, mon testament était fait et je n'avais que peu d'autres affaires qui ne fussent pas réglées. Il ne me restait pas l'ombre d'espoir d'une réunion future avec Madame Van Brandt. Elle ne m'avait pas écrit et je ne l'avais jamais revue dans mes rêves depuis notre dernière séparation. Elle était sans doute réconciliée avec son existence à l'étranger. Je lui pardonnais de m'avoir oublié. Je pensais à elle et aux autres avec la mansuétude d'un homme dont l'esprit a déjà quitté la terre et dont toutes les idées se concentrent hâtivement sur celle de sa propre mort. Je me fatiguais de marcher de long en large. L'isolement du lieu commença à me peser. Le sentiment de ma propre incertitude m'irrita les nerfs. Après un long regard jeté sur le lac à travers les arbres, j'arrivai enfin à une décision positive. Je résolus d'expérimenter si un bon nageur pouvait se noyer volontairement.